essayer d'apporter quelques éléments
pour situer un petit peu le regard que j'ai sur les problèmes qui nous préoccupent ensemble aujourd'hui. Je dois dire que ça fait un quart de siècle que je travaille sur les banlieues, en général, plus précisément sur le nord-est de la région parisienne, plus précisément sur une petite partie du nord-est de la région parisienne, que je commence à connaître un peu bien quand même depuis le temps, mais que du coup, ça m'intéresse, moi, ce que j'y ai découvert et les questions qui s'y sont posées en 25 ans, et je vais y revenir, m'amène aujourd'hui à essayer de penser ces questions à l'échelle de la planète. Parce que je pense qu'il y a vraiment des éléments transversaux d'un continent à l'autre tout à fait étonnants. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas en 25 ans? Je résume à très grands traits. J'ai commencé à travailler sur un espace populaire et ouvrier organisé politiquement dans des villes qui avaient un sens économique, social, solidaire et politique. Et j'ai vu, comme tout le monde, mais d'à peu près avec beaucoup d'attention, cette structuration, cette composition de l'espace, de l'État local et de l'organisation du travail fordiste se décomposer. Cette décomposition, elle a un nom, c'est banlieue. Avant, on parlait de banlieue ouvrière, on parlait de banlieue rouge. Le mot banlieue, il apparaît au milieu des années 80, au moment où on cesse de voir les gens comme des ouvriers, on commence à les regarder comme des immigrés, au moment où le Front National fait sa percée, et au moment où la gauche commence à complètement déraper et à ne pas plus comprendre grand-chose à ce qui se passe. Au moment où on invente la politique de la ville. Voilà. Mon hypothèse, dont on pourra discuter, c'est que cette période de décomposition est close. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les manifestations sociales, les tensions, les revendications, les difficultés que les tenants de l'ordre social, et notamment l'État, rencontrent dans ces espaces urbains-là, n'ont pas le même contenu, n'ont pas les mêmes enjeux qu'il y a 25 ans. Et c'est ce que la gauche n'a toujours pas compris. Il ne s'agit plus aujourd'hui là de reconstruire et de recoudre du social défait pour repartir, je dirais, du bon pied dans la bonne vieille lutte de classe où on a des bons repères, mais il s'agit de comprendre les subjectivités qui sont à l'œuvre là, et que je pourrais résumer de la façon suivante, vécu il y a 15 jours dans une réunion associative à Saint-Denis, où on parlait de l'organisation d'une réunion de travail et de réflexion collective, une université populaire, comme il en fleurit aujourd'hui, sur le chômage. J'avais à ma gauche une ancienne militante ouvrière à la retraite qui pensait que la solution du chômage, c'était avoir de l'emploi, et en face de moi des jeunes d'une association filiale d'une autre association d'Aulnay qui avait un peu tendance à lui dire: mais pour avoir du travail, on a vraiment besoin d'avoir un patron? Il faut rentrer là-dedans? Eux, ils veulent créer leur entreprise. Ils sont de droite pour ça? Il y a quelque chose d'autre qui est en train d'émerger. Alors, ça se manifeste, je pose ça d'abord au départ. Et ce qui est en train d'émerger, la gauche institutionnelle est incapable de le voir parce qu'elle continue à lire le social comme on l'a lu, à juste titre, pendant deux siècles. C'est-à-dire uniquement sur des affrontements de groupes se structurant et structurant leur espace stratégique dans des lieux particuliers qui sont les entreprises, et autour de temps particuliers qui sont les temps de travail. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Bon. Deuxième hypothèse, émerge la partie émergée de cet iceberg qui est en train de nous arriver dessus, c'est des nouveaux acteurs. Alors des fois, il faut les chercher un peu pour les trouver. Mais ces nouveaux acteurs, bon, on les a vus arriver dans les années 90, hein, les sans-papiers, 96, un mouvement qui affirme, qui prolonge, les nouvelles luttes autour de la question du logement, et le passage de la vieille tradition Confédération nationale du logement liée au mouvement ouvrier à la forme de lutte et les objectifs du DAL, par exemple, mais ce n'est pas les seuls. Parce qu'il y a aussi des réseaux locaux qui organisent les squats, qui les accompagnent dans la négociation avec l'État. C'est ce qui se passe dans les quartiers et qui apparaît de temps en temps sous une forme d'affrontement brutal avec l'État, qu'on appelle des émeutes et sur lesquelles, bien sûr, je vais revenir. Mais c'est aussi des choses qu'il faut aller voir d'un tout petit peu plus près et de façon beaucoup plus attentive pour comprendre ce qui se passe, notamment quand on dit, quand la gauche dit, quand la droite dit, quand l'État dit depuis 25 ans que le problème c'est un manque de lien social dans les cités ou dans les quartiers populaires, ça faut vraiment, des fois c'est plutôt le trop-plein de lien social qui est un problème, bien sûr qu'il y a des liens sociaux, bien sûr qu'il y a surtout des multitudes de réseaux de solidarité, d'entraide, de coopération qui fonctionnent très bien, qui sont des vrais réseaux, c'est-à-dire que chacun est le centre du réseau, qui ne se pense pas forcément comme réseau, et qui se pense comme réseau éventuellement quand on vient les emmerder. C'est-à-dire quand l'État vient les empêcher de construire ce petit bout de commun qu'ils sont en train de faire. Ça existe dans les cités, mais ça existe aussi dans les quartiers de Paris. Où j'ai une étudiante qui fait sa thèse sur quelques réseaux du 19e arrondissement et j'ai appris énormément de choses là-dessus. C'est plus récemment, parce que la lutte des sans-papiers qui est apparue en 96, c'est une forme de lutte particulière qui a permis aux intéressés eux-mêmes de sortir de l'ombre, de dire nous ne sommes pas des clandestins, nous sommes des sans-papiers et parler en leur nom. Nous savons que depuis 2 ans au moins, existe une autre forme de mobilisation qui est d'un autre registre sur le même objet, qui est par exemple le réseau Éducation sans frontières, qui mobilise des gens qui ont souvent quelque chose à voir avec ces réseaux de coopération informelle dont je parlais tout à l'heure. Il y en a d'autres, des acteurs. Voilà. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Troisième hypothèse ou en tout cas même constat, ce sont sur ces terrains-là que depuis près d'un an, le nouveau pouvoir qui s'est installé avec l'élection de Nicolas Sarkozy et qui, à mon sens, a aussi clos la période de crise de l'État qui était ouverte dans les années 80. Il est en train de refonder le pouvoir, de reconstruire des formes d'État et des formes d'autorité politique. Ce sont sur ces questions-là que ce nouveau pouvoir, qui pensait justement pouvoir faire consensus contre et s'en servir pour se légitimer, ce sont sur ces questions-là qu'il est en difficulté. La répression, bien sûr, la répression contre les sans-papiers est féroce. Les rafles, parler de rafles n'est pas un vain mot. Des anecdotes de pratiques policières absolument insanes, je pourrais vous en donner si vous voulez. Bien sûr que ça existe, mais la résistance aussi existe. Mais le consensus des petits blancs contre les indésirables n'a pas été réalisé. Au contraire, des réseaux de solidarité se sont élargis, et à la fois matériellement et politiquement et symboliquement, sur cette question-là, le nouveau pouvoir est un échec. Bien sûr, la crise du logement est loin d'être résolue. Pourtant, deuxième échec, les mobilisations sur ces questions, sur la question du droit au logement. Mobilisation organisée par le DAL, par des nouveaux venus comme les Don Quichotte, qui n'ont pas exactement les mêmes la même clientèle. Hein, alors, Don Quichotte s'occupe des SDF, le DAL s'occupe plus des expulsés et des squats. Mais il y a une présence dans l'espace public, il y a une solidarité culturelle d'un certain nombre de personnalités. Il y a une présence dans l'agenda politique réel qui n'a pas été un point sur lequel le nouveau pouvoir a pu avancer ses lignes, a pu construire un consensus. Il y a une véritable résistance, un point de résistance politique sur ce point-là. Sur la question des banlieues et des quartiers, l'autre boudin dans lequel s'est terminé le fameux plan banlieue de Madame Amara n'est pas dû à l'incompétence de Madame Amara. Et je pense qu'il faut le prendre comme le signe d'une difficulté politique réelle, réelle, du pouvoir, du nouveau pouvoir, sur ces questions-là. C'est-à-dire une difficulté à avoir sur ces questions-là un énoncé neuf, une intelligence des situations. Il y a un acteur qui a une intelligence de situation aujourd'hui sur la question des banlieues et sur la question des cités. C'est le patronat. Le patronat est stratégique. Le patronat a compris qu'il y a quelque chose qui émergeait là. Le patronat organise des challenges, des concours, pour essayer de faire sortir de là une nouvelle élite. Et il va y arriver. Il va y arriver. Mais pour ce qui est du maintien de l'ordre social symbolique global, le pouvoir est en échec. Et il est en échec sérieusement, parce que je vous rappelle que les émeutes de 2005, quand on se demande si elles ont existé, franchement, on y reviendra sur la gauche, c'était quand même quelque chose d'absolument étonnant. Étonnant, je dirais, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je le répète. D'abord parce qu'il faut toujours se répéter que de se contredire, et puis parce que des gens qui n'ont pas forcément entendu. Mais comme disent certains de mes étudiants et collègues, dans les quartiers où les voitures brûlaient, il n'y avait que ceux qui regardaient la télé qui avaient peur. Ceux qui regardaient par la fenêtre, et bien plus souvent ceux qui étaient dans la rue, sur le trottoir, en train de regarder ce qui se passait d'un air un peu goguenard, ils n'avaient pas peur du tout. L'ambiance n'était pas à la folie meurtrière. Moi, j'ai eu l'impression de rajeunir de 25 ans, si vous voulez, à ce moment-là. J'ai passé quelques nuits dehors et c'était plutôt rigolo. Donc, on a retenu les voitures qui brûlaient et on n'a pas retenu ce qu'on n'a même pas vu à un moment. C'est-à-dire cette immense solidarité générationnelle, parce qu'il y avait, c'était des mômes qui mettaient le feu aux voitures, la plupart du temps des voitures qui étaient des ventouses sur les parkings des cités, parce qu'il y avait beaucoup moins de plaintes que de voitures brûlées, mais les parents étaient d'accord. Quand les parents qui étaient sur le trottoir étaient interpellés par la police qui arrivait, ah non, on les a pas vus, ils sont au bout. Mais ça, c'était il y a 3 ans. À Villiers-le-Bel en novembre, c'était pas la même chanson. C'est pas des mômes. Il s'est passé 3 ans, il y a des gens qui ont oublié, il y en a d'autres qui n'ont pas oublié. Et là, on est passé aux armes à feu. Et je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge, de ce point de vue-là. Quatrième remarque. Donc, nous avons quelque chose qui émerge. Nous avons des nouveaux acteurs. Nous avons des nouveaux acteurs qui sont les seuls, depuis le printemps dernier, à mettre réellement en difficulté politique, symbolique, le nouveau pouvoir. Je n'aurais pas la cruauté de comparer le résultat avec la défense des retraites, par exemple. Bien sûr, vous avez toujours remarqué que ça a été au centre des débats politiques de la préparation des municipales. Non, il paraît que la gauche a gagné hier. Mais sur quoi ?